Hello, friend.
Il t'a déjà baisé ici, sur le canapé?
Non, pas encore.
Jan, director inside sales. They call me Jan the man.
Oh.
When you say people, you mean companies, right?
Actually, no, sorry. Jan the man. By people, I do mean people, humans, consumers.
Cocksucker!
Yeah, glad I taught you that fucking word.
I'll tell you what I think. Wanna know what I think, Fox?
I'm hanging on it.
Are you? I think you're upset about the shushing. I think you were pissed off about the Hitler mustache on your father-in-law. I think you shook up that can of soda on purpose. And I think you're clomping now, and you've made up some bullshit excuse about your feet, and it's all under the guise of Parkinson's. That's what I think.
Rouge, c'est non. Double rouge, c'est double non.
The situation's a lot more nuanced than that.
Appreciate you think it. I'm really boring, don't you? Well, get used to it, because now that your father is dead, you can forget about ever going to law school. It's just you and dead people and freaks like me for the rest of your life.
Ah! You know, everyone says it's not supposed to make sense, like that's the whole point, dude. And I'm just saying, you know, that's like an excuse for lazy storytelling. Just don't sell me shite and tell me it's gold. All right, I might be stoned, but I'm not high. You know what I mean?
We are God. We're God. We are as
Are you an idiot?
No, sir, I'm a dreamer.
Bienvenue à l'écoute de Sarifolie, l'épisode 7 de la saison 4. Bonsoir Aurore.
Bonsoir Ben.
Nous sommes repartis pour une nouvelle édition de cette émission qui vous parle de séries télévisées. Avec la petite habitude de la semaine, c'est de commencer avec les séries que tu as pu visionner pour nous les derniers jours.
Oui, les derniers jours, les dernières semaines, hein, même.
Parce que tu cumules.
Ça s'accumule et c'est pas facile de toutes les dégager. On n'a toujours pas fini de passer en revue tout ce qu'il y avait comme nouveauté à la rentrée de fin septembre. Donc voilà, on va justement essayer de dégager un petit peu quelques séries qui faisaient partie de ce chariot-là. En commençant toujours par celle qui m'a semblé la moins intéressante, c'est-à-dire Frequency.
Ah oui, c'est oui. Fini.
Oh ben, il me semble que je te l'avais dit.
Oui, 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 les incohérences, oui, tout à fait.
Voilà, donc pour rappel, c'est une série de la CW qui nous proposait de suivre les aventures d'une jeune femme qui, un jour... d'orage, va tout à coup être, avoir la possibilité, grâce à un vieil appareil radio, d'entrer en communication avec son père, mort je ne sais pas combien d'années plus tôt, en tout cas quand elle était petite, et qui a toujours été accusé d'être un flic ripou. Elle-même est devenue flic depuis, et donc la série semblait plutôt se diriger vers la volonté de refaire un petit peu le passé, pour permettre peut-être au présent d'être meilleur.
Ouais.
Ce qui n'est évidemment pas gagné, parce que tu connais tous les problèmes qu'on peut avoir quand on joue avec les voyages dans le temps. Bon, ici, c'est pas un voyage dans le temps, mais c'est... En tout cas, les paradoxes sont censés être plus ou moins tout comme, hein, puisque ce qui se passe dans le passé, bah, ça finit par transformer le présent, c'est-à-dire la vie de la jeune femme. Et ça ne manque pas, évidemment, dès le premier épisode, tout est bouleversé. Et à partir de là, c'est un petit peu une course pour malgré tout récupérer ce qui a été perdu, essayer d'éviter de ne pas perdre... certaines choses. Alors évidemment, j'essaie de ne pas trop en révéler. Pourquoi est-ce que j'ai abandonné ? J'ai abandonné, je crois, au bout du troisième épisode, parce que ça m'a énervé.
Oui.
Parce qu'en gros, on voit le père, donc il y a une vingtaine d'années, et la fille aujourd'hui, mener des enquêtes en parallèle, plus ou moins sur la même affaire et donc sur les mêmes lieux et ce genre de choses-là. Ce qui m'a énervé, c'est un détail, mais pour moi, ça, c'était tellement gros que malgré tout, je me suis dit...
C'est plus un détail à ce
voilà,
niveau-là.
Je ne peux plus laisser passer ça. c'était le fait qu'il fallait, dans le présent, hein, attendre que la trame qui se passe dans le passé se termine pour qu'elle puisse en voir les effets. Ce qui n'est pas logique, parce que c'était dans le passé, donc t'es pas censé attendre. Enfin, tu vois, il y a quelque chose là qui est très problématique dans la manière de présenter cette série-là. Et bon, tu vas le dire, mais...
C'est dans un passé qu'on modifie, donc c'est normal, tant qu'il n'a pas été modifié, futur peut pas être... Donc tu dois attendre.
Oui, d'accord.
Et toi, ça t'a trop torturé l'esprit.
Je trouve ça quand même...
Non, moi je trouve ça bien.
J'ai pas adhéré à ce principe-là, ça m'a énervé. C'est aussi bête que ça. Ça m'a énervé de voir ça. Et donc, je suis restée accrochée à ce détail. Parce que justement, un des avantages des voyages dans le temps, c'est que les changements sont immédiats et qu'on n'est pas censé attendre que ça arrive. Quoi. Mais donc, voilà. Bon.
Mais t'es vraiment difficile.
Mais non, mais
hein.
En même temps, c'est vrai, je l'admets, étant donné qu'il communique en temps réel, lui, à un moment précis du passé et elle à un moment précis du présent, c'est assez logique qu'à chaque fois, il faille laisser la personne dans le passé faire toute son enquête pour... Mais malgré tout, il y a un truc qui ne me va pas là-dedans.
Tu crois que ce n'est pas possible ?
C'est pas tellement ça, c'est que ils s'en servent pour mettre une sorte de suspense, tu vois, où elle est obligée d'attendre jusqu'à voir le résultat de l'action de son père dans le passé. Donc elle le refait refresh sur son ordinateur ou un truc dans ce genre-là.
Oui, oui, oui. Ah, ça y est, il l'a fait. Dans le passé. Et je suis dans le futur.
Tu te dis, je sais pas.
Oui, je comprends bien. Maintenant, ben voilà, c'était quand même un mode original.
Oui,
illogique
oui.
De récit, mais ça m'a pas autant énervé que toi, ce petit détail.
Oui, non, mais j'admets volontiers que c'était un détail et peut-être que je me suis un petit peu accroché à ça aussi parce qu'il me fallait une raison pour abandonner certaines séries quand même. Il y en a trop, hein. Faut trouver un moyen de les abandonner d'une manière ou d'une autre. Et malheureusement, comme elles sont pas toutes... absolument critiquable, faut bien trouver des détails.
Voilà, t'as trouvé ton détail.
Voilà.
Celle-là, c'est fini.
Mais bon, malgré tout, petit divertissement qui n'a pas à rougir. Hein,
non, tout à fait. Tout à fait.
Si on ne s'attache pas à ce petit détail, c'est vrai que il y avait éventuellement moyen de passer un bon moment, mais voilà. Ça n'a pas été trop mon cas à ce moment-là. Alors, je passe à la deuxième série dont je vais parler parce qu'on a annoncé qu'elle était annulée. Donc, autant clôturer le dossier une fois pour toutes. Hein.
On ferme la trappe.
Il s'agit de Conviction, une série ABC qui nous présentait, je crois que l'actrice c'est Ali Atwell, qui joue une avocate très riche et célèbre parce que c'est la fille d'un ancien président des États-Unis, je crois, quelque chose comme ça. Évidemment, toujours au cœur des médias, suivie régulièrement par les tabloïds, les paparazzi ou que sais-je, et qui est une rebelle. Ça, c'est important. C'est sa caractéristique principale, c'est que c'est une rebelle.
Mais tu n'aimes pas. Hein.
Mais si, j'aime
non,
les rebelles.
Non, non, dans Les Grands, tu n'aimais pas la rebelle non plus.
j'aime pas quand c'est un
cliché.
Petit peu monolithique et que c'est la seule caractéristique qu'on puisse en retirer. Donc c'est une rebelle. Hein, et elle prend de la drogue, c'est pas bien. Et elle se fait avoir par la police. Et ça, c'est encore pire hein, parce que ça risque de sortir dans les médias et créer des problèmes pour ses parents, etc. Surtout sa maman, d'ailleurs, parce que son papa, j'ai pas l'impression qu'on l'ait déjà vu. Et du coup, son, un de ses amis qui est plutôt placé dans le processus judiciaire, je ne sais pas, dans l'institution, je ne sais pas exactement parce que je retiens jamais ce genre de choses-là. Tu me connais, mais il lui dit « Tiens, je viens de créer une unité qui va avoir pour objectif de repasser en revue certains dossiers, peut-être un peu litigieux, pour voir s'il y a eu des erreurs judiciaires. Est-ce que par hasard, tu ne prendrais pas la tête de cette unité-là ?»
Hein? Ah oui, pourquoi pas.
Petit deal, si tu fais ça, je fais passer sous silence le fait que tu viennes de te faire arrêter.
Ah bah c'est un chouette deal. Hein.
Évidemment, elle n'a pas du tout envie de faire ça parce que c'est une rebelle, mais elle est obligée.
Elle a le couteau
tu vois,
sous la gorge.
Elle est coincée.
Mais oui.
Et du coup, elle le fait.
Ça t'a énervé aussi.
Bon, allez. Disons que c'est l'entrée en matière. Ça, c'est pas très fin, mais bon, admettons. Donc, elle arrive dans sa nouvelle unité. D'enquêteurs, hein, et donc on a trois enquêteurs, je crois, qui sont à son service pour pouvoir faire un petit peu tout ce qu'elle va leur demander comme recherche supplémentaire, rencontrer les témoins, les victimes, les accusés, enfin les condamnés, même dans ce cas-ci, etc., pour essayer de voir si la personne condamnée est méritait vraiment de l'être ou pas. Et à chaque fois, évidemment, elle va chercher des cas pour essayer d'embêter un petit peu le politiquement correct, son ami qui l'a quand même mis le couteau sous la gorge quand même, ou bien sa maman, enfin ce genre de choses-là, parce que c'est une rebelle, je le rappelle. Hein. Et donc, voilà, elle va... épisode après épisode, suivre un cas différent. Donc, c'est un procédural, finalement, tout ce qu'il y a de plus
classique.
Banal.
Ouais.
Avec, finalement, une équipe d'enquêteurs, comme on peut en trouver dans énormément d'autres procédurals que l'on connaît déjà. Moi, je dois t'avouer qu'au niveau du personnage et de l'équipe qu'on mettait en place autour de lui et du caractère très privilégié également du travail qu'on lui accordait, évidemment, elle est présentée comme quelqu'un d'extrêmement brillant, etc. Son seul gros problème, en fait, c'est d'être en rébellion. Hein. Ça m'a beaucoup fait penser à une structure à la Dr. House. La seule différence, c'est qu'ici, c'est un personnage féminin et pas un personnage masculin. Et malheureusement, et c'est là que le bât blesse, ça se sent énormément. Alors que le Dr. House ne se démonte jamais et finit toujours par s'en sortir par des pirouettes pour ne jamais être en situation où il doit s'excuser, où il doit malgré tout reconnaître qu'il avait tort, ou que sais-je encore, ben ici, on a toujours un petit peu les moments où ça finit par plus fonctionner comme ça, et je trouve ça problématique. Qui ait une telle différence de traitement. Moi, j'étais déjà plutôt emballée par l'idée d'avoir un Dr. House au féminin, tu vois. Évidemment, ici, c'est dans le cas de la justice au lieu de la médecine, mais ça ne change pas grand-chose en soi. Hein. Mais cette différence dans la manière dont on traite finalement le personnage... M'a vraiment dérangé. Et je trouve qu'ils auraient peut-être dû un petit peu y réfléchir. Maintenant, pourquoi ça n'a pas fonctionné auprès du public américain, ça, je ne saurais l'expliquer, mais...
Ce ne sont peut-être pas les mêmes raisons, mais c'est clair que là, bon, une nouvelle fois, tu l'admets, ce décryptage était tout à fait personnel, c'est subjectif.
Ici, c'est moins sur un détail, hein. C'est vraiment sur la construction même de l'ensemble, enfin, tous les épisodes que j'ai vus jusqu'à présent, je crois que j'en ai vu 5, c'est à chaque fois un petit peu la même dynamique qui revient et où Enfin, si fallait être aussi... le problème, c'est qu'on voit trop qu'on ne traite pas de la même manière les femmes que les hommes. C'est comme ça que je l'ai ressenti.
Oui, mais justement, voilà, ma question vient de là. Est-ce que ce n'est pas une sensibilité que toi, tu as et qui ne dérangerait pas quelqu'un d'autre ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, ça on est d'accord. Mais
est-ce que ça ne peut pas fonctionner si on oublie juste ça ?
Oui, mais enfin, ça vole malgré tout pas super haut. Et tu vois, moi, c'est vraiment le côté c'est plutôt un truc fun. Faut admettre le point de départ qui est un petit peu bébête, mais bon, on rentre vite dans le jeu et c'est un procédural qui peut être agréable à suivre. Et en fait, non. Il y a ce truc-là qui dérange. Est-ce que j'ai été la seule à être dérangée par ça ? Peut-être, hein, mais en tout cas, il a été annulé, donc il ne devait pas y avoir que ça, j'imagine. Voilà.
Bien. Alors, dernier sujet, rapidement.
Dernière série, malheureusement rapidement, puisque c'est malgré tout celle que j'ai gardée pour la fin. Il s'agit d'une série qui s'appelle Notorious. Série que je m'attendais à détester. Alors là, je place le décor dès le départ. C'est vraiment parmi les trailers que j'avais vus, la série qui m'avait semblé la plus cynique, la plus bling-bling, celle qui me donnait le moins envie et où les personnages me semblaient les moins attachants. Mmh. Et j'ai été très étonnée de voir que c'était pas le cas. Alors c'est vrai, c'est une série assez légère, c'est une série malgré tout de network, et donc on sent qu'on va pas aller dans les grandes profondeurs intellectuelles non plus. C'est une série évidemment avec du suspense. Par exemple, il y a une femme qui est tuée au premier épisode, et donc épisode après épisode, mais on en découvre un petit peu plus sur qui aurait pu avoir fait le coup et pourquoi. Et puis on a aussi à chaque épisode un cas particulier qui est traité ici par deux côtés différents, un côté avocat puisque un des deux personnages principaux est un avocat, et un côté médiatique puisque la deuxième personnage principal cette fois-ci est comment on appelle ça, une éditrice en chef d'un journal télévisé, j'imagine que ça doit s'appeler comme ça, plus ou moins, ou bien programmatrice.
Rédacteur en chef, même, non?
Oui, enfin, je...
Pas, oui,
bon,
okay.
Voilà.
Réalisateur, même, parfois, on dit, de journaux télévisés.
Oui, c'est ça. Voilà, on a ces deux personnages-là. Je pensais qu'on allait avoir des sortes de guéguerres un petit peu stériles entre les deux. Et en fait, on se retrouve face à un duo qui fonctionne vraiment bien, qui fonctionne pas du tout sur sur l'ambiguïté, est-ce qu'ils vont finir ensemble ou pas. C'est, pour une fois, on arrive sur une représentation d'une vraie amitié, j'ai l'impression, entre un homme et une femme, sans qu'il y ait l'air d'y avoir quoi que ce soit d'autre. C'est assez rafraîchissant, je trouve. Alors, c'est léger, je l'ai dit, mais c'est plutôt divertissant dans les sujets qui sont traités. Et à chaque fois, tu t'attends à ce que les sujets puissent finir par être traités de manière qui puisse ne pas être totalement... je sais pas moi, qui prennent pas totalement en compte les différentes questions d'égalité, etc. Et en fait, à chaque fois, ils arrivent à ne pas tomber dans le piège et à fournir quelque chose de plutôt qualitatif, je trouve. Donc je conseille plutôt pour une série de network, vraiment Notorious. Jusqu'à présent, à nouveau, hein, je n'en ai vu, je crois, que 6 ou 7 épisodes jusqu'à présent. Mais vraiment, pour moi, c'est une surprise et j'espère que ça continuera comme ça encore longtemps.
Ouais, on te le souhaite aussi, Aurore, que tu ne regardes pas pour rien. Merci pour ce partage de ton avis, tes avis sur les différentes séries qu'on vient de décrire. On va faire une pause musicale, si tu le veux bien.
Mais je veux bien.
Alors, on t'écoute.
Alors, on va s'écouter une chanson qui est déjà passée ces derniers temps dans pas mal de séries, j'ai l'impression. Je l'ai entendue plusieurs fois. C'est Africa de Toto et c'est passé notamment dans Stranger Things et dans South Park.
Tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melody. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Out in the night, as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Fait l'émission avec les bons génériques de séries télé ou...
Ah ben,
on pourrait.
Pourquoi pas, oui.
Pour faire une spéciale générique une fois.
Il faudra, oui.
Bon, le sujet du jour de cette émission, Série Folie, épisode 7 de la saison 4.
Oui, alors, tu sais de quoi on va parler ?
Oui, moi j'ai le mot fatidique sur ma petite fiche, on va parler de l'adolescence.
Oui, exactement, on va parler de l'adolescence et on va donc commencer... Tout d'abord par la place qui est laissée à l'adolescence dans le monde des séries. On peut dire, déjà pour commencer, que c'est une place un petit peu à part. Hein. Il faut le reconnaître. On a déjà dit que finalement, dans les séries, bien souvent, même si de nombreux efforts sont faits, il y a toujours une sorte de neutre qui reste généralement un homme blanc hétérosexuel, hein, on l'a déjà dit souvent, et ben c'est aussi un homme blanc hétérosexuel entre plus ou moins 25 et 45 pour être large, hein. Année, hein, je veux dire entre 25 et 45 ans.
Oui.
On est d'accord, donc j'estime de manière évidemment assez large ici. Et donc ça signifie que malgré tout, tous ceux qui se trouvent pas dans cette tranche d'âge-là sont beaucoup moins représentés par les séries télévisées, notamment finalement, on a quand même assez peu de séries dans lesquelles on a des personnes âgées. Et on peut même, quand on regarde beaucoup de séries, constater qu'à chaque fois qu'on a besoin d'une personne d'un certain âge, on va toujours faire appel aux mêmes acteurs. On retrouve quand même très souvent les mêmes acteurs dans certaines tranches d'âge. On a aussi assez peu d'enfants, alors probablement en partie parce que, évidemment, c'est plus difficile de faire travailler les enfants, c'est plus difficile de trouver aussi des acteurs enfants qui soient bons, hein, faut bien l'admettre aussi. Et puis, y a tout un secteur qui leur est réservé, ce sont les séries pour enfants qui peuvent passer sur les chaînes pour enfants et qui là représentent majoritairement évidemment cette tranche d'âge là. On a plus ou moins la même chose avec les adolescents, puisqu'on a aussi notamment aux États-Unis des chaînes spécialisées pour les adolescents, et donc on a tout un tas de séries qui sont des séries uniquement ou quasiment, hein, pour adolescents, et qui donc vont représenter quasiment que des adolescents, quasiment, hein, parce qu'évidemment, ça n'est jamais entièrement le cas. Alors, ça signifie que dans les séries, finalement, qui s'adressent à tout le monde, hein, à nouveau, c'est quoi exactement le neutre les séries, c'est un petit peu problématique comme question, mais bon, admettons. En dehors des séries familiales où évidemment on peut avoir un mélange parents, enfants, ados, on en a tous en tête, eh bien généralement, puisque avoir des enfants c'est assez difficile, mais que malgré tout, dans certaines séries, on a besoin de personnages qui représentent un petit peu les obligations familiales du héros. C'est assez pratique d'utiliser la figure d'un adolescent. Et donc, on a un certain nombre de séries dans lesquelles le héros, quand il rentre chez lui le soir, est accueilli par un adolescent, parfois seul, parfois pas, mais enfin, voilà. C'est vrai que c'est quand même une configuration qu'on retrouve assez souvent, qui a l'air d'être une sorte de compromis idéal, assez économique aussi, hein, parce que finalement, ça permet de représenter l'ensemble des obligations et des problématiques qui peuvent se passer dans une famille, mais en ayant un seul acteur et un seul personnage à écrire et à mettre en scène, l'adolescent. Et du coup, malheureusement, dans toutes ces séries-là, l'adolescent, ça va être souvent la tête à claque, le personnage super chiant, parce qu'il vient justement représenter l'ensemble des obligations familiales. Les obligations familiales, c'est pas toujours drôle. Et donc, voilà, malheureusement...
C'est bien résumé.
C'est pour ça qu'on va avoir si souvent le reproche qu'on a énormément d'adolescentes chiantes dans les séries. Mais c'est pas uniquement parce qu'on déteste les adolescentes à la base, c'est probablement aussi en partie à cause de cette espèce d'économie de moyens-là qui finit autant au niveau de simplement l'économie des acteurs que l'économie d'écriture, narrative, etc., de faire des raccourcis qui malheureusement... finissent par donner une mauvaise image peut-être de certains adolescents et notamment adolescentes. Hein. Je ne sais pas pourquoi, c'est quand même beaucoup plus des filles que des garçons qui sont représentés comme ça. Peut-être en partie parce que les filles, justement, ont l'air d'incarner... plus encore que les garçons, vraiment les obligations de présence, d'attention, etc., auxquelles le père devrait faire attention quand quand il s'agit de sa famille, tandis que généralement quand on représente un garçon adolescent, c'est parce qu'il a fait une bêtise, il est en train de risquer de tomber dans un danger quelconque, drogue, gang ou que sais-je encore, et là il faut intervenir au dernier moment, et c'est plus une question de discipline, tandis que quand ce sont les filles, ce sont plus vraiment pourquoi t'es jamais là, pourquoi tu t'occupes pas de maman, pourquoi tu la trompes, pourquoi tu l'as quitté ou que sais-je encore, enfin les trucs chiants que les filles sont capables de dire quoi. Donc voilà, voilà ça au niveau des séries habituelles. C'est vrai que ça mène à des choses pas très joyeuses. Heureusement, on a quand même un marché assez large de séries uniquement pour adolescents, où là, on va avoir une bien plus grande diversité. Je terminerai ce petit segment en disant quand même que j'ai l'impression, malgré tout, qu'il y a certaines séries qui font des efforts pour représenter dans les séries adultes, entre guillemets, des adolescents qui ont un petit peu plus de complexité, et malgré tout, ça fait aussi plaisir à voir. Et je pense principalement à la saison 2 de American Crime qui est passée à la fin de la saison précédente, qui valait vraiment le coup. Ou encore, je le cite souvent, mais je crois que ça vaut la peine de le dire, Major Crimes, qui a un personnage d'adolescent qui est aussi assez complexe et qu'on laisse vivre et évoluer dans toute sa complexité. Et ça aussi, c'est assez rare. D'ailleurs, je ferai remarquer que dans cette série-là, finalement, la question de l'âge est explosée autant vers le bas que vers le haut. Hein. C'est dans tous les sens et c'est assez rafraîchissant pour ça aussi.
Oui, même si... Moi, la seule critique que je pourrais faire par rapport à ça, c'est quand je les vois toujours débarquer dans leurs opérations policières, du haut de leurs 65 ans, ils sont vraiment, là, tu vois, les premières armes avec leurs gilets pare-balles.
Mais c'est ça qui est rafraîchissant.
Oui, parce qu'on est dans l'ambiance.
Ça change.
Mais c'est loin d'être, à mon avis, la réalité. Bon, voilà.
Oh là là, t'es toujours à devoir uniquement représenter la réalité, t'es quand même un petit peu réduit hein, dans ton esprit.
Pas plus que toi, alors que tu n'aimes pas les voyages dans le temps où on doit attendre, enfin, franchement.
Oui, c'est vrai, on a tous nos limites. Bon, bref, on s'écoute de la musique.
Bah, si tu le veux bien.
Oui, on va s'écouter Slide Away de The Verve, entendu dans My Mad Fat Diary.
Sarifoli avec le sujet du jour qui traite de l'adolescence dans les séries télé. Comment c'est représenté? Quels sont les différents problèmes? On t'écoute.
Oui, merci. Alors, on va commencer donc maintenant à voir quels sont les grandes problématiques qu'on retrouve généralement dans les séries pour adolescents. Cette fois-ci, on se concentre davantage. Et ben, finalement, on va retrouver toujours à peu près les mêmes thèmes. Hein. C'est assez codifié malgré tout. Quels sont ces thèmes? Ben, la première question, c'est la question du groupe. C'est quand même assez rare qu'on nous représente un adolescent véritablement tout seul qui ne finit pas... Elle n'est pas, l'adolescent ou l'adolescente n'est pas toujours dès le départ intégrée à un groupe, mais généralement au fur et à mesure de la série, au minimum, elle finit par intégrer une bande d'amis. Hein, je crois que on peut tous avoir en tête plein de séries dans lesquelles c'est le cas, évidemment. Par exemple, je sais pas moi, Buffy par exemple, et son Scooby Gang, Dawson évidemment.
Hein,
on a un noyau d'amis qui est assez dur. Hein. c'est la même chose pour One Tree Hill. Ça va être la même chose aussi pour Felicity, pour je sais pas moi, The In-Betweeners, pour Faking It, pour Skins, même si les générations peuvent changer, dans My Mad Fat Diary aussi, dans Misfits, dans Glee même, pourquoi pas, dans Blue Mountain State à la limite, aussi dans Awkward, dans Beverly Hills, souviens-toi, l'été dernier.
Ouais. Je me souviens.
Tu te souviens? Bon. Dans Freaks and Geeks, etc., etc. On nous représente quand même toujours des adolescents intégrés dans un groupe de pairs. Ça fait partie véritablement des caractéristiques importantes quand on veut représenter cette tranche d'âge-là. Deuxième élément intéressant et très récurrent également, on va nous représenter l'adolescence comme un parcours initiatique. Alors, pas évidemment au sens des tribus anciennes, hein, évidemment, mais malgré tout, bien souvent, il y a l'idée qu'il faut passer par une série d'épreuves plus ou moins difficiles à cet âge-là, qui peuvent être incarnées par différentes problématiques. Hein. Ça peut être la problématique du rapport aux parents, ça peut être la problématique de
la sexualité.
De la sexualité, pourquoi pas, oui. Bah, oui. Également, la problématique de que vais-je faire de ma vie, qui suis-je exactement. Et donc, on est aussi, quand on suit des séries pour adolescents, en train de suivre des personnes qui sont en train de se découvrir elles-mêmes sur tout un tas de sujets comme ceux-là. Et à chaque fois, la spécificité de la série va permettre justement que ce parcours initiatique soit véritablement différent. Et donc, même si on est toujours finalement en train de suivre plus ou moins le même parcours, eh bien, c'est toujours différent et intéressant aussi. C'est un petit peu la magie du truc. Alors, la question également de l'étrangeté, du fait qu'on se sente un petit peu bizarre, un petit peu à part, un petit peu trop original ou marginal, et donc le désir d'acceptation va aussi beaucoup être traité dans les séries télé. Évidemment, par exemple, quand on entend ici le générique de My So-Called Life, C'est le cas notamment, mais pas que. Hein, dans la plupart des séries, si ce n'est pas le sujet principal de la série en son entier, au minimum, on a des épisodes qui lui sont consacrés. Par exemple, dans Buffy, représenté sous la forme d'enfants qui disparaissent petit à petit aux yeux de leurs camarades de manière assez mystérieuse. Ils deviennent transparents hein, aux yeux de tous. Et donc le message pour nous est lui aussi assez transparent. On peut également parler de quoi ? Est-ce que tu aurais des exemples ? Évidemment, quand je pense à My Mad Fat Diary, ben là, c'est vraiment la problématique de la série, puisque c'est une jeune femme qui, malgré tout, une jeune fille qui retourne dans son groupe d'amis alors qu'elle a passé un petit temps en hôpital psychiatrique. Donc là, vraiment, la problématique est au cœur de la série. Des idées ?
Bah, je réfléchis, non.
Non ?
Tu me prends comme ça au pied levé.
Je pense à Awkward, par exemple, où là, c'est vraiment le point de départ de la série, où on a la jeune fille à qui on dit, bah, finalement, t'es qu'une loseuse, et en plus, qu'on pense, vu à cause d'un accident malheureux, qu'elle a tenté de se suicider. Donc forcément, sa différence va se marquer plus encore. Et évidemment, je crois que si on passait en revue toutes les nombreuses séries adolescentes qu'on a pu voir, eh bien, on va retrouver ce genre de problématiques-là. Évidemment, tout ce qui est romance est très important aussi dans les séries pour adolescents, hein, les histoires d'amour, tu sors avec qui aujourd'hui, moi je sors avec lui, alors ce sera moi demain, etc. tu connais les histoires, hein, c'est vrai que ça finit par tourner un petit peu en rond. Et donc évidemment au final aussi, toute la question de l'ouverture à la sexualité hein, qui est traitée manière plus ou moins problématisée.
C'est pas simple.
Il faut admettre que dans les séries qui passent actuellement, ça a l'air d'être moins problématisé qu'à l'époque. Et au contraire, on va plus axer ça sur les différences dans les orientations sexuelles. Par exemple, je pense à une série comme Faking It, où là, c'est vraiment est-ce que je suis hétéro, est-ce que je suis gay, est-ce que par hasard, je serais pas hermaphrodite ou que sais-je encore. Donc là, c'est une autre manière d'aborder cette question-là de l'ouverture à la sexualité, mais qui est probablement beaucoup moins torturée que la manière dont on pouvait nous la présenter à la fin des années 90 avec Buffy et Dawson, par exemple. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit quand même assez souvent dans cette émission, hein, que certaines séries se sont vraiment placées en opposition à cette hyper complète... prise de tête autour de la sexualité, et il y a peut-être un petit peu un effet de balancier qui s'est fait là où maintenant on représente la sexualité de manière beaucoup plus libre et moins...
Ça me fait penser de nouveau à ta série préférée, les Grands. Ils font ça très bien.
Oui. Malheureusement, je n'aurais pas eu l'occasion de la voir en entier. Donc j'aurais pas... Je ne pourrais pas exploiter tout le potentiel, c'est vrai. C'est un petit peu dommage.
Ils parleront peut-être pas de canapé comme dans Marseille, mais au minimum.
Écoute, voilà. ne me déflore pas tout. Hein. J'espère un jour avoir le temps d'en découvrir davantage. Bon, bref. Donc ça, c'est autre sujet, donc l'ouverture à la sexualité et toutes les questions d'amour hein, qui sont très importantes. Évidemment, le rapport aux parents, comment se détacher petit à petit de ses parents, etc.
C'est compliqué.
Hein, ou bien je suis en opposition, je suis en rébellion. Il n'y a pas que les femmes de 30 ans qui sont en rébellion, parfois aussi ce sont les adolescents. Et donc, on a aussi cette question-là qui parfois est problématisée de manière beaucoup plus spécifique, par exemple dans la série. je me souviens plus du nom de cette série, ça y est. J'ai un trou. Une série dans laquelle une jeune fille a été enlevée quand elle était jeune. Et puis, celle qu'elle croyait être sa mère est arrêtée et mise en prison pour kidnapping, évidemment. Et elle doit retourner dans sa vraie famille. Mais pour elle, sa vraie famille, ben évidemment, c'est pas du tout sa vraie famille parce qu'elle, elle était très bien avec sa kidnappeuse, entre guillemets. Et donc, voilà, ça pose pas mal de problèmes, etc. Bon, donc on peut avoir les problèmes tels qu'on peut les imaginer au départ. Et puis, on a aussi des trucs plus spécifiques. Les enfants adoptés, les enfants qui sont mis qui sont placés dans certaines familles, etc. On a de nos jours la volonté de représenter des cas beaucoup plus spécifiques qu'avant. Et enfin, dernière thématique qui est beaucoup représentée, c'est la question de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir ? Parce que finalement, il y a toujours aussi un message qui est transmis généralement dans ces séries-là, parfois à la fin d'ailleurs, où on dit... Alors, il y a deux types de séries. Là, il y a les séries plutôt dépressives qui ont l'air de dire « Oula, l'avenir, on ne sait pas trop ». Je pense par exemple à une série comme Newport Beach, dit aussi, où là, ça avait l'air de pas être super la joie et c'était pas du tout une série qui disait « Allez-y les gars, foncez, n'ayez surtout pas peur ». Et par contre, on a les messages extrêmement positifs dans One Tree Hill, dans Dawson, dans... je sais plus à quoi je pensais d'autre, mais au minimum dans ces deux-là, où véritablement il y a un vrai discours d'un narrateur en voix off qui dit « N'ayez pas peur, finalement l'avenir vous réserve le meilleur, etc. » Donc il y a aussi souvent ce discours-là qui est porté.
Bien.
Voilà.
Bon, allez.
Oui, on passe à la musique.
Si
la musique, ce sera Same Mistakes de The Eco-Friendly, entendu dans Girls.
I make the same mistakes, feels like I never learn. Always give way too much for little in return. I haven't changed a bit, I'm still not over it. I make the same mistakes, I make the same mistakes.
I never did grow up, feels like I never.
Et on se quitte bientôt sur ce magnifique générique de Buffy.
Mais oui, bien vu.
Avec une dernière petite chose à rajouter peut-être.
Oui, je voulais parler de la représentation finalement que nous donnent les séries de l'adolescence. Alors, on va aller vite parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Première chose, eh bien, on peut dire que c'est encore et toujours une période qui est célébrée comme très importante et véritablement mise à part hein, dans la vie d'une personne de nos jours. C'est vu comme une période vraiment très importante. Pourquoi ? Notamment parce que c'est tout un parcours initiatique, on l'a dit, et que donc il faut passer par ces étapes-là. Ensuite, on peut dire aussi que les séries pour adolescents et donc la représentation de l'adolescence a suivi les évolutions de la famille, et notamment toutes les questions de famille monoparentale, de parents divorcés, remis ensemble, famille recomposée, etc. Que sais-je ? Donc évidemment, on va avoir beaucoup plus de configurations dans les représentations des adolescents à ce niveau-là. Malgré tout, petite limite, on peut remarquer que dans les séries pour adolescents, finalement, l'univers dans lequel se trouvent les personnages est assez restreint. Et il y a assez peu de contact avec le monde extérieur, avec toutes les problématiques du monde extérieur. Et c'est vraiment un monde presque clos. On a dit que bien souvent on avait la représentation d'un groupe, mais ce groupe fait quasiment l'entièreté de la série, quoi. On n'en sort pas. Et d'ailleurs, quand je dis tu sors avec qui aujourd'hui parce que moi ce sera demain, c'est vrai que c'est aussi un petit peu pour ça, hein. On tourne parfois un peu en vase clos aussi à ce niveau-là. Alors, on est passé, j'ai l'impression, de séries qui voulaient véritablement symboliser ce qu'était l'adolescence, définir ce qu'était l'adolescence, comme ça peut être le cas pour des séries comme Dawson ou comme Buffy, à aujourd'hui des séries beaucoup plus spécifiques où on va s'arrêter sur des problématiques beaucoup plus spéciales, comme je l'avais dit, des orientations sexuelles un petit peu différentes, des configurations familiales, etc., etc. Alors, c'est toujours un lieu dans lequel on a un discours éducatif à destination des adolescents, peut-être de manière un petit peu moins édifiante que par le passé, mais malgré tout, il y a toujours un discours qui passe à ce niveau-là. Et la dernière chose, c'est que les frontières, me semble-t-il, semblent de plus en plus vagues avec la période de la post-adolescence où, dans certaines séries, on prolonge finalement l'adolescence et tous ses atermoiements pour encore quelques années, voire une décennie entière. Je pense par exemple à une série comme Girls, à une série comme Chuck, qui peut aussi entièrement être vue comme une série, un parcours initiatique. Je pense aussi à une série comme Wrong Men, qui nous présentait finalement des hommes qui il était temps qu'ils commencent à grandir. Voilà.
Parfait. Bon voilà, je ne t'ai pas interrompu hein, pour ne pas te troubler. On va terminer cette émission en rappelant simplement que le podcast de celle-ci sera disponible très bientôt via notamment le site internet www.serifolie.be et ce sera relié certainement sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter. Merci à toi Aurore.
Mais merci.
On se quitte en musique.
On se quitte en musique avec une musique entendue dans One Tree Hill et dans Felicity. Ça s'appelle Lie in the Sound et c'est Trepasser Williams.
Merci à toi. À la semaine prochaine.
I love you more than I should, so much more than is good. for me. More than is good.
Would you?